Comme tous les jours sur Radio Présence, on évoque l'actualité dans les diocèses. Aujourd'hui, c'est le diocèse de Tarbes-Lourdes avec Anne-Rose Jankovic. Bonjour Anne-Rose.
Bonjour Gilles, bonjour à tous.
Dans un instant, vous allez nous parler d'un concert qui va se dérouler à Tarbes. Mais auparavant, eh bien, on va partir avec vous en reportage du côté de Montousset. Alors évidemment, la première question que je vais vous poser, c'est, vous allez nous le situer, Montousset, même si tout le monde connaît, mais il y a peut-être encore quelques auditeurs qui ne savent pas où.
Bon, alors vous situez Lannemezan, j'imagine, mon cher Gilles. Vous situez Lannemezan. Lannemezan, vous prenez la direction de Labarthe de Nest. Vous allez jusqu'à Labarthe de Nest et à une petite dizaine de minutes en voiture, eh bien, il y a la commune, le village de Montousset, qui compte un peu plus de 200 habitants, 254 habitants pour être exact. Sur cette commune de Montousset, il y a un sanctuaire dédié à la Vierge Marie, le sanctuaire Notre-Dame de Nouillan, dont je vais vous raconter l'histoire. Alors, monsieur Campistrous, oui. Vous êtes le président de l'association des Amis de Notre-Dame de Nouillan.
Nouillan avec deux ailes.
Nouillan avec deux ailes, comme les anges. Alors, réexpliquez-nous l'histoire de ce lieu. Au XIVe siècle, il y avait déjà une dévotion mariale.
Voilà, il y avait une dévotion mariale et cette chapelle a été construite par les habitants du quartier. Et toutes les statues qui se trouvent à l'intérieur, ce sont des dons qui ont été faits par les gens. Voilà.
Y compris les trois vierges, dont la Vierge en Majesté qui est derrière l'autel.
Il y a la Vierge miraculeuse avec l'enfant dans les bras. D'un côté, il y a la Sainte Agathe et Sainte Luce. Sainte Luce qui est pour les aveugles, qui tient dans son plateau les yeux. Et Sainte Agathe, là, il y a eu deux versions. On a deux versions. Elle aurait eu les dents arrachées et d'autres disent que c'est les seins. Alors, quelle est la bonne version? Je ne sais pas. Tout dépend des endroits où elle se trouve.
Mais alors, vous m'avez dit quelque chose d'important pour la statue de la Sainte Vierge du milieu. Vous m'avez dit Vierge miraculeuse. Pourquoi?
Pourquoi? Ça, je ne sais pas. J'ai toujours entendu dire que c'était ils appelaient ici la Vierge miraculeuse. Et c'est la Vierge l'enfant. Quand il y avait toutes les cérémonies à la Vierge, elle était descendue, elle était mise sur une table, habillée avec un habit de lumière. Et les gens, quand ils allaient communier, ils venaient baiser la main de la Vierge.
Alors, ça, c'est l'histoire de ce lieu, de cette chapelle, bien antérieure à l'histoire des apparitions et du sanctuaire.
C'est en 1848.
Alors là, qu'est-ce qui s'est passé?
Là, c'est la Vierge qui est apparue aux enfants. Mais avant que la Vierge ait apparu, mais je me rappelle plus en quelle période c'était, il y avait une statue qui avait été retrouvée par un propriétaire d'une vache. Voilà, c'était un roncier dans le temps où il y avait un morceau de bois qui arrêtait pour faire boire les vaches, qui arrêtait l'eau. Et une vache a fixé le roncier. Donc le propriétaire, il a cru qu'il y avait une vipère ou quelque chose. Il avait le bâton, il a écarté, il a trouvé une statue. Il a porté la statue, ça c'est chez la personne qui s'occupait de cette chapelle ici. Le lendemain, la vache l'a refait pareil et la statue était de nouveau là.
Elle était retournée au même endroit toute seule.
Retournée. Donc le propriétaire de la vache a pensé que c'était la personne qui s'occupait de la chapelle qui l'avait ramenée là.
Et c'était pas ça.
Et on ne sait pas. Donc il l'a prise et il l'a portée chez le curé qui est au centre village, à 1,5 km de là. Le lendemain, la statue y était encore. Alors c'était une statue de la grandeur de l'enfant de 5 ans, mais on ne sait pas où elle est passée et on n'a pas trouvé d'autres décrits. Donc on ne sait pas si c'est la statue qui est au sanctuaire des apparitions ou si c'est une autre, on ne sait pas.
Il n'empêche que là où a été trouvée cette statue et là où cette statue est retournée a été construit donc cet oratoire.
Les apparitions ont eu lieu après, mais je ne sais pas combien de temps après par contre, parce qu'on n'a pas trouvé d'écrit qui nous fixe les dates.
Parce que tout ça se transmettait à l'oral.
Voilà, à l'oral.
C'était dans les familles, on se racontait ce qui s'était passé.
Voilà, il faut savoir que dans le temps, dans la commune de Montousset, il y avait plus d'habitants qu'à Lannemezan.
Ah, c'était très grand alors.
C'était très grand. Ce n'est que pas le cas maintenant. Mais à ce moment-là, à Montousset, il y avait beaucoup plus d'habitants. On avait retrouvé un calendrier. Je pense que c'est encore ma belle-sœur qui doit l'avoir. Qu'on avait retrouvé un calendrier où on avait vu ça.
Donc en fait, il y a une double grâce ici à Montousset, dans ce lieu de la chapelle, et puis à quelques mètres, l'oratoire. En fait, ce sont deux lieux qui disent toute la dévotion que les gens d'ici ont à la Sainte Vierge. Quoi. Voilà, madame.
Je m'appelle Jocelyne Solé. native de Montoussé. Et mon jeune fille, c'est Pomiès. Voilà, moi je vais vous raconter l'histoire d'un peu. Parce que dans l'apparition de Notre-Dame de Nouillant, il y avait deux grandes tantes, mon grand-père maternel, qui ont vu l'apparition de la Vierge. Voilà, c'est toute une histoire. C'est qu'on vit la Sainte Vierge et elles habitaient dans cette maison là-bas.
À quelques mètres de la chapelle dédiée à la Vierge.
Et alors quand moi j'étais gamine, je me faisais gronder. On était 9 enfants. Donc je venais me réfugier ici. Et après, quand j'ai su qu'il y avait l'apparition de Notre-Dame de Nouillant, j'en ai parlé à ma maman. Et elle m'a dit justement qu'il y avait deux tantes à mon grand-père maternel qui ont vu l'apparition de la Vierge. Voilà.
Et jusqu'à ce moment-là, vous ne le saviez pas?
Non. Je venais me réfugier au sanctuaire, là, j'allais, et voilà. Et
comme un instinct.
Ouais. Et là, quand je ne suis pas bien, je reviens. Je passe le pont de Nouillant, moi je suis au paradis ici. Ouais.
Qu'est-ce que vous y ressentez?
Du réconfort. Je parle à Notre-Dame de Nouillant. Moi je suis contente de voir qu'il y a du monde qui vient à Notre-Dame de Nouillant, et puis il y a beaucoup de monde qui... voilà.
Ça fait partie de votre vie?
Oui. Oui, exactement, ça fait partie de ma vie.
Et est-ce que vous avez des traces écrites, de témoignages de donc vos ancêtres? Il n'y a pas de traces écrites?
Non, non.
Donc c'est la transmission d'une histoire orale, oui. et d'une oui. Foi.
Voilà, de la foi et de morale. C'est ma maman qui m'a raconté ça. Et voilà, ma maman était très, très croyante. Et, voilà.
Et donc vous-même, vous le transmettez à vos enfants, vos
oui.
petits-enfants?
Oui, si je peux, je le fais. Mes enfants, bon, mes petits-enfants, oui, je leur... voilà.
Aujourd'hui, la visite de Monseigneur Jean-Marc Mika, notre évêque, ça doit vous toucher?
Ah oui, beaucoup, oui. C'est gentil d'être venu voir Notre-Dame, ici, le truc de Notre-Dame de Nouillant. C'est vrai que moi, Nouillant, c'est, comme je vous dis, moi, Nouillant, c'est mon lieu sacré.
Et vous n'avez jamais quitté donc ce lieu?
Si, je suis partie, parce que bon, mes parents, ils ont déménagé, mais je suis toujours venue ici. Voilà, ah oui. C'était mon lieu de...
Comme un aimant.
Comme un aimant, voilà, c'est ça. Voilà.
Merci beaucoup pour votre témoignage.
Merci beaucoup, à vous aussi. Merci voilà. D'être venu. Merci.
Nous sommes donc avec vous, Anne-Rose, au sanctuaire Notre-Dame de Nouillant. C'est sur la commune de Montoussé. C'est tout près de la Barthe de Nest et à peine une dizaine de minutes donc en voiture de Lannemezan. Et nous sommes dans ce sanctuaire parce que ce dimanche 8 janvier, notre évêque s'est rendu à Montoussé.
Oui, voilà. Alors, vous savez, Gilles, on dit parfois que Notre-Dame de Lourdes est la petite sœur ou la grande sœur de Notre-Dame de Garaison. Eh bien, moi, j'ai découvert ce dimanche la cousine germaine, on peut dire, Notre-Dame de Nouillant. Et la visite de notre évêque dans ce lieu était vraiment une opportunité pour aller à la rencontre des habitants de Montoussé qui sont fort attachés à ce sanctuaire marial, à leur sanctuaire marial. Alors, il faut quand même dire en amont que les apparitions de la Vierge Marie en ce lieu n'ont jamais été reconnues, pas plus que les miracles d'ailleurs, mais il est un miracle incontestable hein, qu'on vient d'entendre, c'est cette dévotion mariale incessante des habitants du village depuis le XIVe siècle, l'époque à laquelle, vous l'avez bien entendu, une chapelle existait déjà. C'est seulement à quelques mètres de cette chapelle hein, qu'une statue de la Vierge Marie a été trouvée au début du XIXe siècle. Et alors, un oratoire a été construit là où a été trouvée la statue de la Vierge Marie, en plus de la chapelle. Et quelques années plus tard, trois enfants de Montoussé ont affirmé voir la Vierge Marie à l'endroit même de l'oratoire. Et nous étions alors en 1848. Vous voyez que on parlait d'une double grâce, mais en fait, quelles que soient les précisions de l'histoire, ce qui est important et ce qui est vraiment palpable à Montoussé, c'est cette profonde dévotion mariale. Alors, dans ce village de Montoussé, le sanctuaire Notre-Dame de Nouillant, c'est plus qu'un lieu de prière même, c'est aussi un lien vraiment entre les générations. Il mobilise les membres de l'association dont vous venez d'entendre le président, Monsieur Campistrous, mais aussi la municipalité, les enfants, les familles, voilà, tous les habitants, les presque 300 habitants sont vraiment mobilisés autour de ce sanctuaire de Nouillant. Je vous propose d'écouter maintenant Christiane Roger, qui est Madame le maire de Montoussé, aux côtés de Monsieur Campistrous. Elle évoque justement la mobilisation de chacun pour faire vivre et connaître ce sanctuaire Notre-Dame de Nouillant. Parlons de cette chapelle-là dans laquelle nous nous trouvons. Elle a été refaite récemment. Et ça, c'est le fruit, encore une fois, de la mobilisation des habitants. C'est vous, Monsieur Campistrous, qui avez piloté un petit peu.
Les membres de l'association, oui. C'était ma mère qui... Mais j'ai lancé l'association parce que c'est ma mère qui s'en occupait, donc je l'ai dit, depuis la restauration du sanctuaire. Oui. Mais le problème, c'est que l'argent récolté, bon, elle s'en servait pour acheter elle avait acheté des tondeuses, acheté des bancs et tout ça, mais l'argent, elle n'avait pas de compte. Pour avoir un compte courant, il fallait créer une association. Donc, on a créé l'association, ce qui a été très bien. Et avec l'association, on a fait faire tous ces travaux. Et puis, l'association a fait beaucoup de manifestations pour récolter des fonds pour continuer les travaux. Quoi, parce que
à cette époque-là, elle était dans quel état, la chapelle ?
Elle était en ruine. Elle était fermée depuis des années. Et voilà.
Alors, qu'est-ce que vous y avez fait ? Par où vous avez commencé ? Quand vous découvrez comme ça, enfin, quand vous avez sous les mains une chapelle en ruine, par où on commence ?
On a commencé par restaurer l'entrée où la charpente s'affaissait, au-dessus de la porte d'entrée. On a commencé par restaurer la charpente. Ensuite, on est allé... avant, on avait demandé au monument historique de nous aider. On est allé les voir, mais ils ont refusé de nous aider, la chapelle étant en trop mauvais état. Donc c'est l'association toute seule qui s'est débrouillée pour faire restaurer le dessus de la porte qui s'effondrait. Et après, c'est la commune qui a pris en charge la voûte.
Le financement des travaux de la voûte.
Oui, donc, voilà. Du coup, tout le plâtre, c'est l'histoire qu'on vous a racontée tout à l'heure.
Oui, mais alors, vous me l'avez raconté avant que le micro soit ouvert. Maintenant, il faut raconter pour les auditeurs.
Quand la voûte a commencé d'être démolie par M. le Président, il s'est rendu compte qu'il y avait des décorations. Donc, il a demandé à une personne artiste peintre, dont nous avons eu la connaissance par l'intermédiaire d'un peintre, de venir voir. Donc, il lui a donné les morceaux et on lui a demandé de refaire la voûte à l'identique.
Donc, les dessins que nous voyons aujourd'hui sur la voûte sont les dessins qui, alors refaits, mais les mêmes dessins qu'il y avait à la première chapelle, enfin quand la chapelle a été construite.
À l'origine, peinte sur le torchis.
Sur le torchis, d'accord.
La chapelle. Très, très, très pétard un peu, mais bon, voilà quoi.
Ça... Oui, le bleu est un bleu très, très vif, bleu, rouge, ça pète. Oui, voilà. Quels autres travaux vous avez effectués dans cette chapelle ?
Alors, tout l'extérieur a été réaménagé. Ici, tout ce qui est décoration, peinture, les bancs, que vous voyez là, l'hôtel qui nous a été offert par un membre de l'association, qui est fait par du même bois et de la même façon que les menuiseries des bois. Et puis l'entretien courant qu'on fait régulièrement, toutes les fleurs, la tonte de l'herbe, enfin tout ça.
Aujourd'hui, l'association, elle a combien de membres ? Elle compte combien de membres ?
De membres, une cinquantaine.
Qui sont tous des habitants du coin ?
Non, non, pas du tout.
Des personnes ?
Des gens qui sont de bien loin, oui, de Paris et de très loin. Oui.
Alors, comment ils ont eu connaissance ?
Ils viennent une fois en vacances et puis ce lieu est tellement remarquable qu'ils demandent à participer et donc ils payent une cotisation.
Ils ont le coup de cœur.
Voilà.
Aujourd'hui, le quotidien de l'association, vous parliez de manifestations ou pour faire connaître et aider un petit peu à la connaissance de ce lieu.
Surtout. Les manifestations qu'on fait, ce sont pour récupérer des fonds. Donc on fait des repas, on fait des vides-greniers.
Alors, je vais terminer parce que aujourd'hui, alors que vous nous parlez, c'est un grand jour pour le sanctuaire de Nouillon et pour les habitants de Montousset, puisque vous allez avoir dans quelques minutes la visite de notre évêque, Monseigneur Jean-Marc Mica, qui va venir célébrer la messe ici, dans ce sanctuaire de Nouillon. Avant de vous libérer, peut-être un mot plus personnel. Chacun de vous, est-ce que vous pouvez me dire ce que ce lieu représente dans votre vie au quotidien ? Monsieur Campistrous.
Ce lieu représente, disons que on a toujours vécu, j'habite à côté en plus, et j'ai toujours vécu à côté de cette chapelle et participé à toutes les manifestations qu'il y a eu à cette chapelle. Donc c'est un peu comme si c'était de la famille, quoi, la chapelle.
Oui, parce qu'en plus votre famille est depuis très longtemps impliquée dans l'entretien du lieu.
Voilà, exactement.
Depuis toujours, dit Madame le maire.
Oui, moi je ne sais pas depuis toujours, mais moi j'avoue qu'au sanctuaire, il y a quelque chose et que quand on y va, je ne saurais pas exprimer exactement, mais il y a quelque chose qui vous apaise, qui vous... Voilà.
De la même manière que les gens peuvent aller parfois à Lourdes ou à Garaison pour se ressourcer, vous vous ressourcez ici dans ce sanctuaire de Nouillon.
Voilà, moi j'adore aller au sanctuaire.
Voilà. Bon.
J'ajouterai que quand ils ont fait le 150e anniversaire à Lourdes, nous avons fêté le 160e anniversaire et nous avons fait un DVD qui représente les apparitions de la Vierge aux enfants. Et ce DVD est en vente à l'association.
Donc la chapelle n'est pas ouverte tout le temps, mais si on téléphone et on demande, on peut. Et si on vient à la Proviste, on peut sonner chez le voisin qui est vous, monsieur Campistrous.
Voilà, exact.
On comprend bien que tous les habitants de Montousset sont mobilisés de toute façon pour faire connaître ce lieu, le sanctuaire Notre-Dame de Nouillan, à quelques kilomètres de Lannemezan. Merci beaucoup pour votre accueil et bonne journée avec notre évêque.
Et merci beaucoup.
Merci aussi à vous de nous avoir écoutés.
Voilà, c'est un magnifique endroit, vous êtes rendu sur place, un bel endroit.
Oui, c'est un très bel endroit et vraiment l'accueil des habitants de Montousset était fort chaleureux, m'a vraiment donné beaucoup de joie. Vous l'avez entendu, hein, ils sont tous très mobilisés pour faire vivre et connaître ce sanctuaire de Nouillan. C'est très beau de voir tous ces habitants ensemble qui prient et qui sont mobilisés pour que la chapelle et l'oratoire soient toujours accueillants. Donc bravo à eux. Bravo pour cette belle dévotion mariale qui traverse les siècles. Voilà, donc c'était ce dimanche 8 janvier à l'occasion de la visite de Mgr Jean-Marc Mika dans ce sanctuaire de Nouillan.
Voilà, et bravo pour ce reportage. Il y a évidemment d'autres sanctuaires dans le diocèse. Vous irez également nous les faire découvrir.
Ah bah oui, alors oui. Vous savez que la Bigorre est une terre mariale. Donc tout au long de l'année, nous pourrons aller découvrir d'autres sanctuaires qui nous parleront de la Vierge Marie.
On va maintenant partir à Tarbes. Pourquoi à Tarbes? Parce qu'il y a un concert, c'est à l'église Saint-Jean, très prochainement ce concert.
Exactement, l'orgue de l'église Saint-Jean en plein centre-ville de Tarbes a été restauré récemment et ce dimanche 15 janvier à 15h30, eh bien, vous pourrez entendre le son de ce nouvel orgue avec un concert donné par l'organiste Anton Stiller qui sera accompagné de Joël Lassus à la clarinette. L'entrée est libre et gratuite. Voilà, donc rencontre autour de l'orgue de Saint-Jean ce dimanche 15 janvier à partir de 15h30.
Après Tarbes, direction Lourdes avec ce temps de louange, c'est l'association NCASA qui l'organise chaque samedi.
Exactement, alors voilà, cette semaine je voulais faire un petit coup de projecteur sur ce rendez-vous hebdomadaire chaque samedi à 18h30 dans la chapelle Notre-Dame au sanctuaire de Lourdes. Alors c'est juste derrière le bâtiment où se trouve le musée Sainte-Bernadette et les locaux de Radio Présence où nous nous trouvons en ce moment au numéro 1 boulevard Rémy Sempé se trouve donc la chapelle Notre-Dame et dans cette chapelle chaque samedi à 18h30 un temps de louange, de prière et de louange est organisé, proposé par l'association NCASA. Et bien sûr, c'est un temps de prière ouvert à tous.
On termine ce rendez-vous avec le camp Luge. Les inscriptions sont ouvertes pour ce camp qui va se dérouler début mars, si je me souviens bien.
Oui, exactement. C'est un camp pour les collégiens et les lycéens. Je suis désolée, Gilles. Alors, vous pouvez quand même y participer si vous voulez encadrer ces jeunes, peut-être pousser la luge ou
faire la
cuisine.
Est-ce venir avec sa propre luge?
Bien sûr, oui, il faut venir avec sa propre luge. Ah. Alors, c'est le camp Luge pour les collégiens de la 6e à la 3e, plus les secondes. Voilà, donc il y a les secondes aussi qui sont accueillies. Et puis, les lycéens, étudiants et adultes peuvent participer en tant qu'animateurs, accompagnateurs. Ce camp se déroulera du 1er au 3 mars prochain avec un thème phare, Marie se leva et partit en hâte. C'est le thème qui va rassembler donc tous ces jeunes du diocèse pour ce camp luge qui se déroulera. Alors, les jeunes logeront à Lourdes, mais évidemment, ils ne vont pas faire de la luge. Ils pourraient peut-être si la neige arrivait, mais ils iront faire de la luge sur les hauteurs du Haut-Acam et logeront au village des jeunes. Et pour s'inscrire, il faut s'inscrire pour ce camp luge, bien sûr. Toutes les informations, les inscriptions se font via le site du diocèse catholique65.fr/luge, c'est très simple, catholique65.fr/luge. Là, vous avez toutes les informations pratiques et puis un gros bouton bleu, inscription ici, vous cliquez et vous inscrivez vos chers grands bambins.
Voilà, et c'est toujours un rendez-vous très apprécié hein, par les collégiens. D'ailleurs, on le voit chaque année sur le reportage photo que vous publiez.
Exactement, voilà, on le voit grâce aux photos et puis aussi grâce aux vidéos qui se font chaque année. C'est un camp, une retraite aussi. Alors, c'est un camp avec beaucoup de joie, avec des activités sportives, bien sûr, puisqu'il y a la luge et puis des randonnées dans la neige. Mais il y a aussi beaucoup de temps de prière, de de réflexion. Voilà, c'est un temps fort pour les jeunes du diocèse. Et je rappelle que nos jeunes du diocèse se préparent aussi aux JMJ, aux Journées Mondiales de la Jeunesse, qui se dérouleront à Lisbonne au mois d'août. Donc, ce qu'on lue, c'est un peu une étape, un tremplin vers les JMJ.
Probablement qu'à Lisbonne, il n'y aura pas de neige, par contre.
J'espère pas. Je n'espère pas.
Allez, catholique65.fr pour s'inscrire pour le camp en luge. Et puis, plus largement, sur le site, on retrouve l'actualité du diocèse de Tarbes et Lourdes, sans oublier la page Facebook et les auditeurs qui peuvent également vous envoyer les informations que vous publiez gratuitement.
Bah oui, quand même. oui, on se fait une joie de partager avec le plus grand nombre les informations que les uns et les autres nous envoient depuis les différents ensembles paroissiaux, les services, les mouvements, les groupes de prière. N'hésitez surtout pas à nous envoyer les informations que vous voulez partager avec tout le diocèse.
Un grand merci à Andros Jankovic, pour une partie de l'actualité du diocèse de Tarbes et Lourdes. Bonne semaine.